Radio Météo. Dométéo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Bonjour frère Edouard.
Bonjour mon cher frère.
Comment ça va ?
Eh bien, nous sommes contents de prendre Dométéo et maintenant nous attaquons le Saint-Esprit.
Oui, nous nous lançons dans cette découverte de l'Esprit-Saint au travers du catéchisme et j'ai quelques questions à te poser. Est-ce que l'Esprit-Saint a un nom propre ?
Frère Louis, l'Esprit-Saint n'a pas de nom propre et c'est la difficulté au sein de la Trinité qu'il n'ait pas de nom propre. Autant le Père a un nom bien caractérisé, il est le Père éternel, il est le Père de toute la création, il est le Père de Jésus-Christ et son nom aussitôt nous dit quelque chose d'une personne. Le Fils aussi, l'engendré du Père, est un nom de personne qui le caractérise et qui nous permet d'emblée de le connaître, d'autant qu'il s'est incarné. Il n'est pas seulement le Verbe consubstantiel du Père, mais il est le Verbe incarné qui a pris visage d'homme, qui a pris une humanité, et nous pouvons le voir. Il s'est incarné pour être vu aussi. Alors que le Saint-Esprit, comme dit Jésus à Nicodème, dans cet entretien de... au chapitre, tout au début de l'évangile de Saint Jean, on ne sait d'où il vient ni où il va. Et c'est mystérieux, mais le Saint-Esprit, eh bien, c'est à la fois une personne, mais pour caractériser son nom, on a été obligé de prendre deux noms communs qui sont tous les deux valables pour la Trinité tout entière. Le mot « esprit », à un moment dans l'évangile de Jean, dans le dialogue avec la Samaritaine, Jésus dit carrément que Dieu est esprit, et donc c'est valable pour le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La Trinité entière est esprit. Et d'autre part, la sainteté. La sainteté est aussi commune aux trois. Nous nous souvenons dans l'Ancien Testament, par exemple, Isaïe a une vision et il répète « Kadosh, Kadosh, Kadosh Adonai, Saint, Saint, Saint est le Seigneur », c'est valable pour la Trinité tout entière.
Ah, très bien.
Donc, Esprit et Saint, associés l'un à l'autre, eh bien, en fait, c'est deux noms communs, mais qui, associés l'un à l'autre, tout à coup, d'une certaine manière, fusionnent pour donner un nom propre. C'est quelque chose qui est révélé, sans doute à cause de la pauvreté de nos mots. Dans notre humanité, nous sommes fragiles, nous n'avons pas toujours les mots pour parler des réalités surnaturelles. Et Dieu a permis que pour le Saint-Esprit, eh bien, nous référions à lui en prenant deux noms communs à la Trinité pour le caractériser. Et de fait, c'est tout à fait juste que le Saint-Esprit est invisible et donc du coup son nom est plus difficile à porter. Dans certains siècles on parlait même du Dieu inconnu, même au 19e siècle encore on parlait de ce Dieu inconnu, et tout simplement parce que à force de parler seulement du Père et de Jésus-Christ on finissait par oublier la troisième personne de la Sainte Trinité.
Heureusement, Jésus fait mention explicitement de l'Esprit-Saint lui-même.
Alors Jésus fait mention de l'Esprit-Saint lui-même à partir du chapitre 14 de l'Évangile de Saint Jean. Il nous parle d'un autre avocat. Je vous enverrai un autre avocat de la part du Père. Et cet autre avocat, il lui donne le nom de Paraclet. Il le dit très explicitement, donc... avec cette sécurité qu'il pourra nous aider, il pourra être celui qui nous conduira à la vérité, puisque lui-même s'appelle « Je suis le chemin, la vérité et la vie », mais Jésus le nomme « Esprit de vérité ». Et il dit cela, « Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre paraclet pour qu'il soit avec vous à jamais ». L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas ni ne le reconnaît. Vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous. Jean 14, 17. C'est un verset très important parce que c'est la première fois que Jésus parle explicitement d'une personne distincte du Père, distincte de lui. Car à un autre moment, Jésus dit clairement qu'il ne sera pas toujours avec nous. À cause de sa passion, de sa mort, il va disparaître aux yeux de ses disciples. Bien sûr, après, il ressuscitera, mais du coup, il sera présent sous une autre modalité. Et alors que pour le Saint-Esprit, il l'annonce d'une manière pérenne, hein, puisqu'il dit « il demeure auprès de vous ». Et le Saint-Esprit, donc, c'est une garantie de continuité.
Et ce titre de paraclet, d'avocat, semble étonnant dans notre oreille contemporaine. Est-ce que c'est... D'où ça vient? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il doit nous défendre contre quelque chose? Il doit nous aider dans un jugement?
Alors, oui, il y a tout cela, mais étymologiquement, cela signifie celui qui est appelé auprès, advocatus, qui est appelé auprès de Jésus, auprès du Père. Et donc, il y a une proximité qui est cette troisième personne de la Trinité qui est mentionnée. Le catéchisme le dit ainsi. Jésus, lorsqu'il annonce et promet la venue de l'Esprit-Saint, le nomme le paraclet, littéralement celui qui est appelé auprès. Advocatus, on nous donne le nom donc latin du mot avocat. Jean 14, 16 ou Jean 14, 26 ou Jean 15, 26 ou Jean 16, 7. On sent que c'est un mot donc qui est devenu répétitif. Mais Jésus lui-même est appelé l'avocat. Nous nous souvenons, par exemple, Saint Jean le dit dans 1 Jean 2, 1, et c'est une caractéristique donc de celui qui vient nous aider, c'est vrai, mais qui vient intercéder pour nous. Je vous lis le passage du début de la deuxième chapitre de la première épître de Saint Jean. « Petits enfants, je vous écris ceci pour que vous ne péchiez pas. » Donc l'importance du salut, hein, parce que dans le fond, le péché, c'est la perte du salut. Ne pas pécher, c'est trouver le salut. Hein. « Pour que vous ne péchiez pas, mais si quelqu'un vient à pécher, » donc Jésus met l'hypothèse à travers la bouche de Saint Jean à qui il souffle cette épître, mais si quelqu'un vient à pécher, nous avons comme avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste. » Donc Jésus est appelé aussi l'avocat.
Ah, très bien. Ah, oui.
Donc c'est frappant.
Hein. Ce qui associe les deux d'une manière très particulière.
Alors, les deux sont très associés. Et nous savons que, par exemple, un auteur comme Irénée parlera des deux mains du Père. Hein, la main qui est le Fils et la main qui est le Saint-Esprit.
Très bien.
Comme agissant pour notre salut, venant comme nous tirer par les deux mains des profondeurs des enfers, comme Adam et Ève ont été tirés des deux mains de Jésus des enfers pour les sortir à la lumière, vers la lumière du Père, la lumière du ciel. Et pour nous, c'est important puisque on comprend que le Saint-Esprit, et nous aurons l'occasion de le redire après, et le Fils agissent toujours ensemble. Mmh.
Une question un peu annexe, mais à laquelle je pense maintenant en parlant d'avocat. On chante régulièrement le Salve Regina, et dans cette prière, il est question de Marie qui est notre avocate. Est-ce qu'il y a un lien entre l'avocat qui est le paraclet, qui est l'Esprit Saint, et la Vierge Marie?
Oui, il y a de très nombreux paragraphes donc, qui nous parlent de la Vierge Marie dans le mouvement du Saint-Esprit à partir du numéro 721 et suivant, 721-726, parce que la Vierge Marie est sous l'action du Saint-Esprit. Et on le voit dès l'Annonciation, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et donc du coup, il y a une connaturalité entre l'âme graciée de la Vierge Marie et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est comme immédiatement agissant dans l'âme et dans le cœur de la Vierge Marie. Et de ce point de vue-là, alors on peut parler d'une participation au Saint-Esprit. D'ailleurs, ce n'est pas nous qui le disons, c'est l'Épître aux Hébreux. Nous sommes devenus participants du Saint-Esprit, participants de Jésus-Christ. C'est quand même très fort, ces expressions de l'Épître aux Hébreux, souvent oubliées de tant de personnes qui font des études de théologie et autres, mais cette participation est très importante, à tel point que l'on peut dire que la Vierge Marie est elle aussi, et en premier lieu, puisqu'elle est la plus intime à Dieu, par la pureté de son âme, son immaculée conception, eh bien, elle est donc immédiatisée au Saint-Esprit. Et on peut dire qu'elle participe mieux que tous au Saint-Esprit, donc elle est avocate.
Très bien.
Puisque le Saint-Esprit est avocat. Donc, c'est facile à comprendre.
Oui.
Mais par participation, elle n'est pas avocate comme est le Fils et le Saint-Esprit qui sont avocats par eux-mêmes, par la mission qu'ils ont reçue du Père, qui sont avocats pour notre humanité, défenseurs pour notre humanité, elle l'est par participation. C'est comme la médiation. Hein. On parle de unique médiateur, c'est Jésus-Christ, mais la Vierge Marie est médiatrice, co-médiatrice seulement par participation.
Ah, très bien.
Et de nombreux saints, dans le fond, on peut dire que ce sont des avocats. On pense en France à Saint-Yves, le patron des avocats. Et c'est un beau titre. Il a certainement défendu les pauvres, il a été un bon avocat de Jésus-Christ dans tous les procès qu'il a tenus, qu'il a maintenus pour défendre le bien, défendre la vérité, défendre la justice, défendre l'amour, finalement. Et c'est une véritable action du Saint-Esprit que l'on peut reconnaître donc, chez les saints, qui sont avocats chacun, mais avocats pour, au nom de Jésus-Christ, donc dans la participation à Jésus-Christ et à l'Esprit-Saint. Un grand merci, frère Louis.
Mais non, merci à toi, frère Édouard.
À bientôt.
À très bientôt.